Kinshasa veut poursuivre le processus de Luanda malgré les manœuvres des autorités rwandaises. Affirmation hier de la ministre congolaise d'État en charge des affaires étrangères. À l'occasion hier du briefing de presse co-animé à Kinshasa avec le ministre de la Communication et le porte-parole de l'armée congolaise, la chef de la diplomatie congolaise s'est dit persuadée que la solution à la crise diplomatique entre la RDC et le Rwanda se trouve à Luanda. Plus de 10 000 déplacés de guerre se réfugient à nouveau en urgence à l'hôpital général de Masisi ainsi qu'à la base de Médecins sans frontières. MSF dit craindre l'émergence des maladies vu l'afflux des déplacés qui fuient les affrontements entre les FRDC et le M23. Le député national Émile Saïdi Balikwisha est l'invité de ce journal. L'élu du territoire de Beni au Nord Kivu va parler de la situation sécuritaire de ce territoire où les rebelles des ADF tentent de regagner leurs anciens bastions vers la partie est de la route nationale numéro 4. Bonsoir à tous, au micro Noëlla Luzitu Kabambi. Le gouvernement congolais exprime sa volonté de poursuivre le processus de Luanda malgré les manœuvres des autorités rwandaises. Information livrée par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, au cours du briefing de presse co-animé hier jeudi avec le ministre de la Communication et le porte-parole de l'armée congolaise. La chef de la diplomatie congolaise est également persuadée que la solution à la crise diplomatique entre la RDC et le Rwanda se trouve à Luanda, en Angola. Les propos de Thérèse Kayikwamba sont recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Malgré le fait que le président Kagame a choisi de ne pas se rendre à Luanda le 15 décembre et d'honorer l'invitation de son homologue angolais, vous l'avez tous vu, le président Tshisekedi y était. Et je pense que c'était un signal fort et important qui montrait à quel point nous tenons à la paix. Pour nous, le processus de Luanda, il a encore lieu d'être. Il est mis à l'épreuve actuellement à cause du comportement du Rwanda. Nous allons donc attendre et voir si le Rwanda va peut-être retrouver le chemin de la raison. Mais notre position est claire. Nous voulons la paix. Nous respectons l'autorité du facilitateur angolais. Et si le processus de Luanda devait reprendre, en nous donnant des raisons fiables, si vous voulez, d'y faire encore confiance, nous allons retourner à Luanda. Nous avons toujours insisté que la solution à ce problème, la solution diplomatique, se trouverait uniquement à Luanda, pas à Zanzibar, pas je ne sais pas où. Nous avons toujours été très clairs. Le problème, c'est qu'apparemment, Kigali a peur de Luanda. Mais ça, ça les concerne eux, pas nous.
La France condamne les récents affrontements dans le Nord Kivu, dans l'est de la RDC, et se dit très préoccupée par la prise de Masisi, qui constitue une rupture du cessez-le-feu conclu le 31 juillet 2024 dans le cadre du processus de Luanda. La déclaration de la France a été publiée hier jeudi par son ambassade en RDC, Grâce à Mzati.
À en croire cette déclaration, ces événements compromettent les efforts de paix essentiels conduits par l'Angola dans le cadre du processus de Luanda, auquel la France réitère son soutien afin de trouver une solution durable au conflit. Elle encourage les partis à mettre en œuvre sans tarder les engagements pris dans ce cadre et appelle au retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo et à la mise en œuvre du plan de démantèlement des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR. La France réaffirme son attachement à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la RDC, peut-on lire dans cette déclaration. Alors que la crise actuelle entraîne de graves conséquences humanitaires, la France appelle l'ensemble des groupes armés dont le M23 à déposer les armes et à reprendre le dialogue pour mettre un terme aux violences et protéger les populations civiles.
Parlons toujours de la situation sécuritaire à RDC, cette fois-ci dans la province de l'Ituri. L'ancien seigneur de guerre Thomas Lubanga a joué un rôle essentiel dans la mobilisation du groupe armé Zaïre pour sa collaboration avec la coalition Alliance Fleuve Congo AFC M23 de Corneille Nanga. C'est ce que dit en tout cas le dernier rapport des experts des Nations Unies rendu public mercredi dernier. Selon ces experts, l'objectif de cette collaboration était d'intensifier les attaques du groupe armé Zaïre dans cette province. Mais le parti politique de Thomas Lubanga, l'Union des Patriotes Congolais UPC, émet des doutes sur la véracité des faits reprochés à son leader, Martial Kizabiamungu.
D'après ces rapports des experts des Nations Unies, Thomas Lubanga Dilo et Yves Kawapanga Mantro, des anciens chefs de guerre de l'Ituri, ont beaucoup contribué à la mobilisation du groupe armé Zaïre pour encourager les recrutements et la formation des jeunes en vue de mener des attaques armées en Ituri. Ces experts ajoutent que le groupe armé Zaïre s'est allié à la coalition AFC-M23 pour se concentrer sur un nouveau front contre les FRDC. L'Union des Patriotes Congolais IPC, parti de Thomas Lubanga Dilo, s'est demandé de quelles preuves les experts des Nations Unies disposent pour accuser son leader d'avoir rejoint Corné Nanga. La coordination provinciale de la société civile demande au gouvernement de diligenter une enquête à Ituri pour contre-vérifier ces graves accusations des experts des Nations Unies. Didonné Lossa, son coordonnateur.
Nous pensons que le gouvernement aussi devait mettre en place une équipe d'experts afin d'approfondir davantage cette question. Et cela pouvait beaucoup plus édifier tout le monde.
Des sources sécuritaires indiquent toutefois qu'en juin 2024, après la chute de Kanyabayonga tombée aux mains du M23, plus de 1000 jeunes en provenance de l'Ituri et de la Tchopo avaient rejoint l'AFC M23 à partir de Rutshuru. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Les FRDC et la police nationale congolaise ont globalement rempli leur mission dans la province de la Tchopo au cours de l'année 2024. Cependant, le chemin reste encore long à parcourir. Propos du commandant de la 31e région militaire au cours de la parade mixte tenue ce vendredi au camp sergent Kétélé à Kisangani. Tout en appelant ses hommes à observer un comportement digne au cours de l'année 2025, le général-major Timothée Mujinga prévient que tout récalcitrant sera sévèrement sanctionné. Depuis Kisangani, Jacques Moukonkole.
Pour le commandant de la 31e région militaire, les FRDC et la police ont globalement rempli leurs missions respectives conformément à la constitution de la République, celle de protéger l'intégrité territoriale ainsi que la protection de la population et ses biens. Cependant, il déplore certains cas de vols armés avec mort d'homme ainsi que de tracasseries policières et militaires. Cette situation doit cesser puisque l'armée est un métier d'honneur, a-t-il martelé. En outre, souligne-t-il, les équipements militaires ainsi que leurs soldes proviennent des contributions financières des populations. Toujours sur ce chapitre sécuritaire, il annonce pour bientôt le contrôle et l'identification des personnes habitant dans les camps militaires. Objectif déclaré, chasser les inciviques qui s'y sont réfugiés, occasionnant ainsi l'insécurité dans la ville. Par ailleurs, le commandant de la 31e région militaire demande à ses hommes de se tenir de près afin de répondre à l'appel de la nation à tout moment en cas de besoin. Si un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui, a-t-il indiqué, allusion faite à la partie est du pays en proie à l'agression rwandaise. En considération de leur devise, à savoir ne jamais trahir les Congos et ou défendre le pays jusqu'au sacrifice suprême, le général Timothée Mujinga met en garde tout militaire qui violerait ce serment. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
La situation sécuritaire et humanitaire reste très volatile dans le territoire de Masisi. Les combats entre le M23 appuyé par le Rwanda et les FRDC et combattants Wazalendo se sont poursuivis hier jeudi au chef-lieu de ce territoire. D'après Médecins sans frontières, plus de 10 000 personnes déplacées ont à nouveau trouvé refuge en urgence à l'hôpital général de Masisi ainsi qu'à la base de MSF. Cette organisation internationale dit craindre l'émergence des maladies vu l'afflux des déplacés. Denise Loukesso.
Nous commençons à avoir des craintes car les installations sanitaires ne suffisent pas à répondre à leurs besoins essentiels. Les latrines commencent à déborder et nous faisons le maximum pour répondre à cette situation. Mais le manque criant d'acteurs humanitaires dans cette zone rend les choses difficiles, explique Romain Bruyey, coordinateur du projet MSF à Masisi. Outre la prise en charge des 77 blessés des récents combats au niveau de l'hôpital général de Masisi, MSF tente de soutenir aussi les familles réfugiées à l'hôpital en assurant l'accès à l'eau potable et aux soins de santé. Mais les besoins en alimentation vont rapidement se poser si la situation perdure, alerte MSF. Face à la situation volatile et à l'ampleur des combats, MSF appelle l'ensemble des parties au conflit à continuer à garantir la sécurité des patients, de ses équipes et des personnes réfugiées dans les structures sanitaires et locaux humanitaires. MSF déclare que la situation sécuritaire dans la zone de Masisi affecte aussi ses capacités à envoyer des équipes ailleurs dans les territoires. Difficile aussi, poursuit l'organisation, de référer des patients en état critique vers Goma. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Pendant ce temps, dans le territoire de Lubero, toujours au Nord Kivu, l'ONG Enfants pour l'avenir et le développement, EADEV, dénonce la persistance des cas de viol dont sont victimes des femmes déplacées vivant à Lubero Centre et qui ont fui les combats entre les FARDC et le M23. Dans un rapport publié hier par cette ONG basée à Lubero, une vingtaine de cas de viol ont été enregistrés en l'espace de 2 semaines. Elle ajoute que les auteurs sont des hommes en uniforme qui abusent de ces femmes dans les champs où elles se rendent pour chercher de la nourriture. Cette ONG dit craindre l'augmentation des cas des maladies sexuellement transmissibles à Lubero. Bernadette Kourabé, point focal de ENDEV, plaide pour une assistance aux victimes. Elle explique au téléphone de Guylaine Kassassia.
La dernière semaine du mois de décembre 2024 et la première semaine du mois de janvier 2025, nous avons enregistré 18 cas de viol sur les cas qui ont été dénoncés. Nous craignons la maladie sexuellement transmissible qui va se multiplier dans la communauté. Tous ces cas-là, les auteurs sont toujours des hommes en uniforme. Quand nous avons fait un plaidoyer auprès de l'ATE, auprès des militaires responsables, de ces éléments. Ils nous ont confirmé que ce sont les hommes en uniforme incontrôlés. On a dû à l'administrateur de nous aider à attraper tous les militaires qui ont commis ces actes-là. S'ils sont connus, de les mettre en justice. Nous appelons à l'aide humanitaire parce que si l'aide humanitaire était présente, les femmes ne seraient pas exposées dans de telles situations. Parce que c'est à la recherche de vivre que les femmes sont en train d'être exposées en allant au champ, aux femmes aussi, de chaque fois dénoncer.
Le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, contacté, promet de se pencher sur cette question dès qu'il en saura un peu plus sur ces cas de viol des femmes dans leur champ. Et puis en Ituri, des centaines d'enfants déplacés en âge scolaire, en errance dans la ville de Bunia, prennent de la drogue quotidiennement. Ils utilisent de l'essence ou de la colle Patex dont ils aspirent l'odeur. La plupart d'entre eux affirment que cela leur permet de vaincre la faim, la peur ou encore le froid. Le Parlement d'enfants de l'Ituri affirme que c'est toute une génération d'enfants qui est détruite et constitue ainsi en même temps une bombe à retardement pour la société. Cette structure d'encadrement d'enfants appelle le gouvernement à sauver l'avenir de ses enfants. C'est un reportage de Sadiki Aboubakar.
Ils sont partout dans la ville. Ils marchent souvent en groupe de 3 ou plus. Ils demandent de l'argent et de la nourriture à tous les passants, généralement devant des magasins, supermarchés, les banques, etc.
Lorsque je suis dans un état d'ivresse, je ne ressens plus du froid la nuit. Mes parents ne sont pas au courant. Je fume seulement en ville. Et lorsque je rentre dans les sites auprès de mes parents, je cache le reste que je vais reprendre le lendemain matin.
Il existe dans le groupe un autre enfant de 10 ans, mais qui ne se drogue pas encore.
Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à traîner avec eux, mais moi, je ne me drogue pas. Je sais que cela détruit la santé et je les interdis chaque fois de fumer.
Céline Lucinde, chef de bureau de la protection de l'enfant au sein de la division provinciale des affaires sociales en Ituri, affirme que le gouvernement et ses partenaires ont pris plusieurs initiatives en vue de répondre à ces problèmes. Mais cela nécessite l'appui des parents dans les sites.
Ce qu'on a constaté, on peut réinsérer les enfants à l'école, mais les parents ont tendance à montrer aux enfants que mieux vaut venir dans la rue que d'aller à l'école.
Si rien n'est fait pour arrêter ces phénomènes, même après la guerre en Ituri, cette génération d'enfants ne pourra plus être sauvée, estime un observateur. Bunia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Le mouvement citoyen groupe d'éveil pour les intérêts de la population GEDIP alerte sur la dégradation du cimetière de Kazamba, où sont enterrées des victimes de la maladie à virus Ebola des années 95 dans la ville de Kikwit-Okwilu. Dans une déclaration, le GEDIP affirme que des eaux de pluie ont ramené à la surface des ossements des cadavres. Le coordonnateur de GEDIP, Tipo Musiketi Inanga, dit craindre pour la santé des habitants de la ville de Kikwit. Ses propos ont été recueillis par Irène Bomalou.
Le mouvement citoyen groupe d'éveil pour la défense des intérêts de la population en sigle GEDIP lance un cri d'alarme à l'opinion tant internationale, nationale que locale que la ville de Kikwit a déjà été victime du virus Ebola qui a endeuillé plusieurs foyers aux années 1995. À ce jour, Le cimetière de Kazamba, où ces victimes ont été enterrées, est en état de délabrement et constitue un danger pour la population de Kikwit. En effet, les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Kikwit ont fait surmonter à la surface les eaux et cercueils de certains corps sans vie qui ont été inhumés à l'époque où Ebola a fait sa triste histoire. Jedip implore les autorités de la place de dévancer les pires qui pourraient arriver tout en envisageant une solution palliative afin de barrer la route à la dégradation plus en plus de ces cimetières. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on.
Actualité internationale. Au Burkina Faso, l'ancien ministre des Sports, Dominique Marie-André Nana, et d'autres membres du régime de l'ex-président burkinabé, Roch Marc Christian Kabore, renversés lors d'un coup d'État en janvier 2022, ont été mis en examen pour fraude présumée liée à des fonds publics. Annonce faite ce vendredi par le parquet de Ouagadougou, lequel a également été saisi sur des faits de détournement des deniers publics, d'octroi d'avantages injustifiés et de blanchiment des capitaux contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassa Kandé et cinq autres personnes. Pour rappel, M. Kabore a été renversé par une junte militaire conduite par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. On lui reprochait de n'avoir pas su endiguer la violence djihadiste qui mine le Burkina Faso depuis 2015.
L'invité.
La situation sécuritaire dans le territoire de Benue Nord Kivu inquiète le député national Émile Saïdi Balukwisha. En vacances, parlementaire dans sa circonscription électorale, cet élu du territoire de Beni rapporte que les rebelles des ADF tentent de regagner leurs anciens bastions vers la partie est de la route nationale numéro 4. Il parle d'un vide sécuritaire dans la région qui nécessite une intervention urgente du gouvernement. Le député Émile Saïdi Balukwisha est l'invité de ce journal. Il s'entretient au téléphone avec Marco Marofimbo.
Émile Saïdi Balukwisha, bonjour.
Ah oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez d'effectuer une ronde dans le territoire de Beni. Quel constat faites-vous de la situation économique et sécuritaire de la région?
Nous sommes en vacances parlementaires depuis décembre 2024. Nous avons eu à travailler à Eringeti, dans le secteur Benimbao, à Oicha. Et récemment là, nous étions à secteur de Ruenzori. Pour le moment, nous nous retrouvons à Chefferie de Bachu, où nous essayons de trouver de l'occasion pour alerter les gouvernements sur ce que nous venons de constater du côté de l'Est de la RN4. Bien sûr, nous saluons la bravoure des FARDC coalisés aux UPDF qui ont eu à travailler dans la vallée de Mualika et ça fait plus d'une année, la vallée de Mualika est calme. La même chose a été faite à secteur de Ruenzori où les anciennes bases des EDF ont été conquises par les forces loyalistes. À Chefferie de Batalinga, la même chose s'y est passée. Vers route Mbao-Kamango, il y aurait un mouvement des EDF qui serait en train de se réorganiser. Et bien sûr, il n'y a même pas deux semaines, l'ennemi a signé une incursion là-bas. Il n'y a même pas une semaine, nous avons été signalés que vers Kididiwe, l'ennemi a tué deux gens et emporté d'autres dans la forêt. Pas plus tard qu'avant-hier, l'ennemi a signé une incursion à l'Ocelos et dans le secteur de Ruenzori. Il a tué deux gens, il a porté d'autres disparus et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas le sort. Et nous avons été alertés par la population du secteur de Ruenzori qu'il y aurait un mouvement des EDF qui se dirigerait vers la rivière Semuriki. Et là, il y a un risque pour ceux qui sont dans la vallée de Mualika de connaître ce qu'ils ont eu à connaître il y a plus d'une année. Nous pensons que la guerre qui se tient en territoire de Lubero, Masisi, Nyiragongo contre les M23 nous a pris beaucoup d'effectifs pour essayer de tenter de faire face à cet ennemi rwandais qui fait tout pour occuper le territoire congolais, mais qui ne sera pas possible grâce à la résistance de l'armée loyaliste accompagnée des patriotes résistants. Alors, revenons sur ce qui est de cette alerte. Nous pensons que c'est plus urgent ou alors c'est très important de prendre une mesure pour garantir à la population la sécurité. Et cette mesure consistera à équiper toutes ces anciennes bastions des effectifs militaires pouvant monter une résistance contre les ennemis de la paix ou alors les EDF qui tenteraient de réoccuper ces zones. Parce que réoccuper ces zones égale partager la mort à des paisibles populations qui sont déjà pour l'agriculture.
Dans votre correspondance du 7 janvier 2025 au ministre de la Défense, vous avez insisté sur une intervention urgente des opérations militaires dans la région de Beni qui subit à nouveau les menaces des ADF. Que vous a répondu le ministre de la Défense?
Du ministre de la Défense, nous n'attendons pas une réaction couchée sur le papier, mais nous attendons des actions. Nous avons besoin des effectifs sur la ligne de front. Un commandant secteur qui est là, bien sûr, il est déterminé, mais un commandant secteur sans effectifs militaires, un commandant secteur placé dans de très mauvaises conditions qui ne lui permettent pas de faire la guerre contre l'ennemi, de prévenir les risques des attaques contre les civils.
Voilà une décennie que les rebelles des ADF attaquent régulièrement les localités du territoire de Beni. L'État n'a jamais baissé les bras, les populations non plus. Comment expliquez-vous la persistance du phénomène ADF dans cette partie du territoire et c'est quoi votre solution pour finir avec ces phénomènes? L'option militaire, on le voit depuis plus de 10 ans, ne suffit toujours pas. Qu'en dites-vous?
En tout cas, nous pensons qu'il vaut mieux renforcer les effectifs pour permettre au commandant secteur de faire bien son travail et des effectifs qui seront dotés en matériel nécessaire pour faire la guerre contre l'ennemi ou alors pour monter la sécurité des personnes et de leurs biens. Vraiment, si rien n'est fait dans l'urgence, nous risquons de retourner à la case départ. Donc, nous risquons de connaître des massacres comme ceux que nous avons eu à connaître l'année 2023 en chefferie de Bachou dans la vallée de Mwarika et partout là, secteur de Rwenzori et Benimbao.
Saïdi Balikwisha, Emile, merci.
Ah, c'est à moi de vous dire merci, messieurs les journalistes.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Un journal présenté par Noëlla Luzito Kabambi et mis en onde par Dieudonné Nyangasa, le tout supervisé par Jude Mister Bilanda.